Bonjour, Jocelyn Fiorina.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous accueillir à la librairie Mola. Vous êtes enseignant à Centrale Supélec à Paris-Saclay, et professeur à l'Université de Rome à la Sapienza. Et vous êtes aussi président de la Société des Amis d'Alexandre Dumas. Donc vous êtes un spécialiste d'Alexandre Dumas. Et plus particulièrement, vous avez travaillé sur les rapports d'Alexandre Dumas à l'Italie, auquel vous avez consacré un livre, Alexandre Dumas, l'Italie au cœur, aux éditions Ceni d'Autore, en 2021. On vous doit également la publication d'un inédit de Dumas, l'assassinat de la rue Saint-Roch, dans la collection Mille et Nuits aux éditions Fayard en 2015. Et aujourd'hui, nous vous recevons à l'occasion de la sortie aux éditions Chênes d'un petit trésor littéraire, d'un événement intitulé La galerie de Florence racontée par Dumas, un coffret en 7 volumes qu'on voit à l'écran. Et voilà, que vous avez édité en collaboration avec Christina Farnetti. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous poser la question, c'est comment on tombe amoureux de l'œuvre d'Alexandre Dumas?
Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'accueillir et de me permettre de partager avec vous ce trésor d'Alexandre Dumas, justement, que je suis très heureux de rendre enfin à son public. Et un public très large, Alexandre Dumas est un des écrivains les plus appréciés au monde. Et moi-même, j'étais un lecteur amoureux de Dumas dans mon adolescence, avec Les Trois Mousquetaires, avec Le Comte de Monte Cristo. Mais c'est plus tard que j'ai redécouvert Alexandre Dumas. Donc je suis professeur à Paris, mais aussi à Rome, à l'Université La Sapienza. Et c'est lors d'un de mes séjours romains, qu'en lisant le journal La Repubblica, j'ai découvert le côté italien d'Alexandre Dumas. Parce qu'à l'époque, c'était en 2013, il republiait en Italie les écrits de Dumas sur la mafia napolitaine, sur la Camorra. Et il y avait une double page dans La Repubblica, et les Italiens étaient ébahis. Et comme ils adorent aussi Alexandre Dumas, c'est un des auteurs les plus lus aussi en Italie. Et donc, il redécouvrait le Dumas italien, et moi-même, je redécouvrais le Dumas italien, et donc j'avais ce point commun avec Alexandre Dumas d'être amoureux de l'Italie. Et ça m'a amené à redécouvrir l'écrivain qui était. Et notamment, j'ai découvert le fait qu'il avait vécu à Naples, qu'il avait vécu à Florence. À Naples, il avait créé un journal qui s'appelle L'Indipendente, et dans lequel il écrivait chaque jour en italien, de 1860 à 1864, pour aider Garibaldi dans l'unité italienne. Et dans ce journal, il y avait des nouvelles qui n'avaient jamais été traduites en français. Et donc, j'ai eu l'idée un jour de traduire une de ces nouvelles, d'être le premier traducteur en français d'Alexandre Dumas. Et c'est à ce moment-là que j'ai publié L'assassinat de la rue Saint-Roch. Et c'est la première pépite qui m'a mené jusqu'au trésor que l'on révèle aujourd'hui, qui est la Galerie de Florence.
Oui, c'est vrai qu'on connaît très bien les rapports d'un autre grand écrivain français, Stendhal, avec l'Italie, mais beaucoup moins celui d'Alexandre Dumas avec l'Italie. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur effectivement, les voyages qu'il a pu faire, un peu la géographie, il a commencé à voyager en Florence, puis après à Naples, et pourquoi il a voyagé en Italie, pour quelles raisons?
Oui. Alors c'est vrai qu'il y a un parallèle à faire entre Stendhal et Dumas. Et les deux étaient amoureux de l'Italie. Les deux ont une histoire parallèle avec l'Italie. Celle de Stendhal est plus connue. Celle de Dumas est un peu plus méconnue. Les deux se sont rencontrés à Rome. Donc j'ai raconté ce dîner romain durant le voyage de 1835 d'Alexandre Dumas dans mon livre « Alexandre Dumas, l'Italie au cœur ». Et Alexandre Dumas a un lien avec l'Italie depuis très jeune. Il a appris l'italien quand il était jeune, il aimait beaucoup la langue. Il a découvert même, dit-il, la littérature romanesque grâce à des livres italiens. Et son père, le général Dumas, avait été emprisonné à Tarente par le roi des deux Siciles, le roi Ferdinand. Il y a aussi ce lien charnel avec l'Italie, le souvenir de son père et la volonté aussi d'aider l'unité italienne pour venger son père, pour combattre les Bourbons de Naples. Et donc, il rencontre les patriotes italiens à Paris, qui sont exilés, puisqu'ils se battent pour l'unité italienne et l'Italie, à l'époque, était divisée en plusieurs États et puis parfois sous le joug de puissances étrangères comme l'Autriche. Et donc, ses premiers contacts avec les patriotes italiens le mènent à faire un voyage en Italie en 1832. Donc, c'est son premier voyage en Italie. Et là, il entre en contact avec les sociétés clandestines, notamment la Giovine Italia. Donc, il y a un procès verbal du procès de la Giovine Italia qui raconte justement les contacts d'Alexandre Dumas avec cette société secrète. Et puis, en 1835, il refait un grand voyage en Italie et qu'il raconte dans ses impressions de voyage, le Coricolo, le Speronare, que l'on republie bientôt. Et donc, dans ses souvenirs de voyage, il raconte son voyage en Italie, mais du côté purement impression de voyage. Donc, il raconte les paysages, il raconte la culture italienne, il raconte les gens qu'il rencontre. Il y a plein d'anecdotes et d'histoires romancées qu'il met dans ses impressions de voyage. Mais il y a une histoire secrète qu'il ne dévoile pas à l'époque, parce que ça pourrait nuire au personnage qu'il rencontre, c'est toute son activité clandestine auprès des sociétés républicaines italiennes qui veulent l'unité de l'Italie. Et puis, il rencontre aussi une cantatrice, Caroline Unger, dont il tombe amoureux. Ils vont ensemble à Palerme, c'est son grand amour à l'époque. Mais il est expulsé d'Italie, parce que toutes les polices italiennes le cherchent. Donc, il est expulsé de Naples, ensuite il est expulsé de Rome, avec menace de plusieurs années de galère s'il revient. Et donc, c'est la fin de son histoire d'amour avec Caroline Unger. Et Caroline Unger, on en retrouve des traces en filigrane dans le Comte de Monte Cristo. Il y a plein de clins d'œil à son histoire avec Caroline Unger, notamment dans certaines descriptions de Mercedes ou dans certaines descriptions de scènes d'opéra. La première fois qu'on rencontre le comte de Monte Cristo dans le livre, c'est à l'opéra de Rome, le Teatro Argentina. Et l'opéra qu'ils écoutent, c'est une création de Caroline Unger. Ce n'est pas dit dans le roman, mais Alexandre Dumas le sait. Et ce qui est amusant, c'est que Stendhal, lui, était tombé amoureux de Caroline Unger 5 ans auparavant, et lui a fait la cour pendant des années sans jamais réussir à la séduire, tandis que Alexandre Dumas, en une semaine, a vécu pu conquérir le cœur de Caroline Unger. Ils ont vécu une histoire passionnée. Alors, il revient ensuite en Italie en 1840, Alexandre Dumas, à Florence. Et il faut savoir que le duché de Toscane, qui était un peu plus libéral que les autres États, était le seul État en Italie qui a accepté la présence d'Alexandre Dumas. Donc Alexandre Dumas, amoureux de l'Italie, arrive à Florence. Pour la petite histoire, il se trouve qu'à Florence, il y a aussi Caroline Unger qui s'est installée. Mais ça, il ne le dit pas. Et à Florence, on lui propose de travailler sur un nouveau type de catalogue pour la Galerie des Offices. Et donc, il se plonge dans le travail et a produit ces 7 volumes de la Galerie des Offices pendant ce temps-là. Et c'était avant qu'il soit connu pour ses romans. À l'époque, il était connu comme auteur dramatique. Il était même célèbre déjà en Italie, en France, partout. Mais c'est après avoir écrit La Galerie de Florence, en rentrant en France, qu'il publiera Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte Cristo. Et on trouve les prémices de ces romans à succès dans La Galerie de Florence.
Alors, pourquoi on propose à un Français d'écrire un guide des offices à Florence?
C'est une bonne question. En fait, il y a un mouvement à Florence. Ils veulent faire connaître, ils veulent en quelque sorte écrire le roman national de Florence. Donc, ils veulent diffuser ce patrimoine culturel en Italie, mais aussi dans le reste du monde. Et donc, il prévoit de faire une édition italienne avec un écrivain italien, un historien de l'art, Ranalli, il s'appelle. Et puis, pour la version française, dès qu'ils apprennent qu'Alexandre Dumas est arrivé à Florence, ils lui demandent de travailler sur la version française. Et ils envisageaient même une version anglaise qui n'a jamais été faite.
Et comment ça a été reçu, le fait qu'un Français s'occupe? Parce que j'ai compris qu'il était beaucoup plus payé que Ranalli.
Il était bien plus payé que Ranalli. Alors, bien sûr, ça a créé une certaine fascination du côté du public, mais un rejet du côté des spécialistes. Donc les spécialistes se plaignaient du fait que Alexandre Dumas écrive sur l'histoire de l'art sans être un scientifique, sans être un historien. Ils ont même publié des petits fascicules en relevant toutes les erreurs que Alexandre Dumas aurait commises dans ses écrits. Et la même chose se passe des années plus tard, quand Alexandre Dumas, en 1860, rejoint Garibaldi en Sicile et à Naples. Garibaldi le nomme directeur du Musée national et des fouilles de Pompéi. Et là, levé de bouclier, il y a plein d'Italiens qui écrivent à Garibaldi disant « Mais c'est scandaleux de nommer un Français directeur des fouilles de Pompéi, nommer un Italien. » Et il y a toute une cabale contre Alexandre Dumas. Il en souffre beaucoup parce qu'il était très attaché au peuple italien. Et au pays et à l'Italie. Et puis, c'était assez injuste, en fait, ces critiques, parce que c'était vraiment un amoureux de l'art et il voulait partager cet amour, il voulait diffuser le savoir au plus grand nombre. Et donc, sa plume permettait au plus grand nombre d'avoir accès à l'histoire de l'art, à la connaissance des peintres de la Renaissance, etc. Et lui-même était très érudit. Il avait une connaissance encyclopédique. Il s'est appuyé, bien sûr, sur des ouvrages de référence de l'époque, mais lui-même avait une connaissance encyclopédique. Aux archives de la Bibliothèque de France, il y a le carnet de voyage d'Alexandre Dumas de 1835, donc quand il a fait son grand tour de l'Italie, avant son installation en 1840 à Florence. Et en 1835, déjà, il passe par Florence, il va au musée des Offices, et on retrouve dans son carnet de voyage toutes les notes qu'il a prises sur les tableaux, sur les peintres, sur les Médicis. Et on voit même une liste de tableaux. Et la liste de tableaux qu'il présente dans son carnet de voyage correspond aux tableaux qui sont présentés au début de la galerie des tableaux dans la galerie de Florence. C'est-à-dire que le plan lui-même qu'il avait à l'époque pensé se retrouve dans cet ouvrage, 5 ans plus tard, cet ouvrage de référence d'histoire de l'art.
Alors, on voit bien, c'est un très beau coffret avec 7 volumes. Est-ce que vous pouvez nous évoquer de quoi est constitué ces volumes, le premier volume ?
Vraiment, toute la générosité d'Alexandre Dumas, sa plume féconde. Donc, ce n'est pas un simple catalogue avec les chefs-d'œuvre, les plus grands chefs-d'œuvre de la Galerie des Offices qui sont commentés par Alexandre Dumas. Alexandre Dumas en profite pour faire une préface sur les créateurs de la Galerie des Offices. Donc, il faut rappeler que la Galerie des Offices, c'est le premier musée en Italie. Donc, il fait le premier volume sur l'histoire des Médicis qui ont créé la Galerie des Offices. Donc, c'est l'histoire des Médicis. Et l'histoire des Médicis, c'est l'histoire de Florence, mais c'est les Médicis, c'est Florence à l'époque de Machiavel. Donc, ça devient aussi un traité politique, c'est fascinant. Ensuite, le deuxième volume, c'est l'histoire de la peinture. Donc, l'histoire de l'art depuis les Antiquités jusqu'à la Renaissance, et même au-delà. Et donc là, c'est fantastique, parce que non seulement il raconte l'histoire de l'art, mais en même temps, il raconte l'histoire des civilisations où l'art s'est développé. Donc il raconte la civilisation grecque, il raconte la civilisation romaine, il raconte l'éclosion de l'école italienne et la Renaissance, enfin. Et donc il y a aussi, non seulement l'histoire de la peinture, l'histoire de la sculpture, mais il y a en même temps tous les grands conflits qui ont jalonné ces évolutions racontées avec la verve de Dumas. Le troisième volume, c'est l'histoire des peintres. Et là, c'est des biographies de peintres. Donc, il y a une 30aine de biographies de peintres dans ce troisième volume, mais on trouve d'autres biographies de peintres dans les autres volumes, un peu éparpillées dans les autres volumes. Mais le troisième volume, c'est une trentaine de biographies de peintres qui se lisent comme des nouvelles, chacune. Donc, on peut les lire indépendamment, mais en même temps, elles sont interconnectées. Donc, c'est fantastique. C'est des nouvelles interconnectées entre elles qui nous apprennent beaucoup sur l'histoire de l'art, sur l'histoire des grands peintres, mais racontées encore une fois avec la plume de Dumas. C'est-à-dire qu'on y trouve l'amour, la passion, la rivalité, les aventures. C'est tout à fait passionnant. Et enfin, les volumes qui suivent, ce sont des tableaux de la Galerie des Offices. Donc, le quatrième volume, c'est une collection unique en son genre que l'on trouve à la Galerie des Offices, qui est une collection d'autoportraits de peintres. Et les autoportraits de peintres, c'est quelque chose de fantastique, parce que dans un autoportrait, non seulement on voit donc le visage du peintre, mais on voit aussi le coup de pinceau du peintre, qui en dit encore plus sur le peintre que son visage. Donc c'est une façon de dévoiler le peintre extrêmement puissante, hein, l'autoportrait. On voit à la fois le style du peintre et son visage, tel que lui-même se voit. Donc c'est une collection unique. Donc là, on a une centaine d'autoportraits tels qu'ils étaient à l'époque à la Galerie des Offices. Alors ces autoportraits, au départ, Dumas devait s'appuyer sur ces autoportraits pour écrire ses biographies. Mais alors bien sûr, il s'est aussi affranchi de cette règle, il a raconté des biographies de peintres qui ne sont pas dans les autoportraits, et puis il y a certains autoportraits pour lesquels il n'a pas écrit de biographie. Mais c'est quand même au cœur de la création de la Galerie de Florence, cette série d'autoportraits. Alors, la série d'autoportraits en elle-même n'est pas commentée par Alexandre Dumas. Donc, le quatrième volume, qui contient la centaine d'autoportraits de peintres, n'a pas de texte de Dumas, si ce n'est une introduction que l'on a mise, où Alexandre Dumas raconte quand il rentre dans la salle des autoportraits du Musée des Offices. Donc, qui vient des impressions de voyage d'Alexandre Dumas, et pour qui est ce texte d'introduction d'Alexandre Dumas, on l'a mis dans la galerie de Florence. Donc, il raconte son émerveillement dans la salle des autoportraits du Musée des Offices, et puis ensuite, on a la centaine d'autoportraits tels que Dumas avait pu les voir à l'époque. Alors, ce qui est à savoir sur ces tableaux, c'est qu'à l'époque, il n'y avait bien sûr pas de photographie et pas de reproduction couleur, mais il y avait d'excellents graveurs. Donc, ils ont embauché les meilleurs graveurs de Florence, mais même au-delà, en Europe, pour reproduire chacun des tableaux. Et à chaque fois, il y a plusieurs artistes qui travaillent sur une gravure. Il y a le dessinateur qui reproduit le tableau en dessin, et puis ensuite, il y a le graveur qui transforme le dessin en une gravure qui est reproduite. Donc, ce sont des véritables œuvres d'art en elles-mêmes, les gravures. Donc, on a mis des gravures d'époque, et en plus, on a mis, grâce au partenariat avec le Musée des Offices, d'ailleurs, le directeur du Musée des Offices a écrit la préface pour la Galerie de Florence, le directeur actuel, qui est Simone Verde, et grâce au Musée des Offices, on a pu mettre les photos couleurs, donc en haute définition, de chacun des tableaux, ce qui permet de voir la gravure et le tableau actuel. Et c'est très intéressant de comparer les deux. Les deux sont des œuvres d'art. La gravure en elle-même est une œuvre d'art. Et puis, on a le véritable tableau. Et puis, on voit parfois des différences entre la gravure et le tableau. Parce qu'au fur et à mesure des restaurations, les restaurateurs ont rétabli des éléments du tableau qui avaient été changés par d'autres restaurateurs. Donc, on voit par exemple des cols qui changent, des fraises qui deviennent des cols plus classiques. On voit des fonds qui changent. Bref, on voit l'évolution du tableau grâce à la confrontation entre la gravure et le tableau. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les historiens de l'art travaillent beaucoup à l'identification des peintres des tableaux. Et encore aujourd'hui, ils cherchent à qui attribuer les tableaux, même s'ils ont déjà été attribués dans le passé, où il y a pu y avoir des erreurs, et ce qui fait qu'il y a des changements d'attribution des tableaux, même des grands chefs-d'œuvre, au cours de l'histoire. Et il y a à peu près 20% des tableaux, ou un tiers des tableaux, qui ont changé d'attribution dans la galerie de Florence, depuis sa publication en 1840 et aujourd'hui. Mais en particulier, dans la galerie des autoportraits, la moitié des autoportraits ont changé d'attribution, et voire même ne sont plus considérés comme des autoportraits. Ce qui s'explique par le fait que les Médicis voulaient absolument avoir une collection d'autoportraits. Et ils étaient prêts à en payer n'importe quel prix. C'est ce que raconte Dumas d'ailleurs dans l'histoire des Médicis. Et donc, il y avait quelques vendeurs peu scrupuleux qui essayaient de faire passer de simples portraits comme des autoportraits. Parfois, ils rajoutaient même une palette de peintre dans la main du portraituré. Donc, il y a presque la moitié des autoportraits qui ne sont plus aujourd'hui reconnus comme des autoportraits. Et ça, on a mis des petites notes pour l'expliquer. Mais c'est aussi fascinant de voir cette évolution des tableaux, l'histoire des tableaux, pourquoi ils sont attribués à quelqu'un à un moment, pourquoi ça change à un autre moment. Il y a par exemple l'autoportrait de Léonard de Vinci, donc à l'époque qui était considéré comme un autoportrait de Léonard de Vinci dans la collection des Médicis. Mais au XXe siècle, on a fait une radio et on a vu sous l'autoportrait de Léonard de Vinci une peinture d'une Madone peinte 100 ans après la mort de Léonard de Vinci. Et donc, ça ne pouvait plus être un autoportrait de Léonard de Vinci. Ça confirmait le fait que ce n'était pas en fait un autoportrait de Léonard de Vinci. Donc ça, c'est pour l'histoire des autoportraits, donc collection fascinante, aussi bien pour ce que représente un autoportrait, mais même pour l'histoire des tableaux qui ont changé d'attribution. Et enfin, les trois derniers volumes, ce sont des chefs-d'œuvre de la Galerie des Offices, commentés par Alexandre Dumas. Et on y trouve de véritables pépites dans les commentaires de Dumas. Et parfois, il en profite pour écrire une nouvelle biographie d'un peintre. Parfois, il raconte, par exemple, dans un des tableaux de Salaï, le disciple de Léonard de Vinci raconte comment Léonard de Vinci, en se promenant dans les rues de Milan, rencontre un jeune enfant qui sera plus tard son disciple, et donc c'est raconté avec plein de vie. Un autre moment, il raconte Dante qui se promène dans les rues de Florence et rencontre sa muse. Bref, les commentaires des tableaux sont racontés avec beaucoup de vie et sont passionnants à lire.
Comment vous expliquez que ce trésor a disparu aussi longtemps et qu'aujourd'hui il est redécouvert que simplement aujourd'hui ?
Alors, c'est une très bonne question. C'est un chef-d'œuvre qui était en voie de disparition. Il n'en restait plus qu'une dizaine d'exemplaires dans le monde, une dizaine d'exemplaires complets en 2024, début 2024, avant qu'on le publie. Les spécialistes même pensaient qu'il n'en restait que deux ou trois exemplaires dans le monde. Et ça s'explique en fait par son mode de production. Il a été produit à Florence, donc publié à Florence, et il était publié sous forme de souscription, c'est-à-dire que les lecteurs payaient un abonnement et tous les mois, ils recevaient une dizaine de pages qui comprenaient trois gravures et un autoportrait en gravure et une dizaine de pages écrites de la main d'Alexandre Dumas. Donc il y a 1700 pages dans l'édition que nous avons reliée. Bon, le format n'est pas exactement le même, mais donc on comprend bien le nombre de mois qu'il fallait attendre pour recevoir toutes les pages, et ensuite pour pouvoir les relier. Car il n'y avait pas de volume officiel relié, c'est chaque lecteur qui devait faire ses propres volumes une fois qu'il avait reçu toutes les pages. Et la publication de toutes les pages a duré une vingtaine d'années. Et puis, ceux qui pouvaient se permettre de payer cet abonnement, alors on a la liste des souscripteurs, mais c'est des personnes fortunées, c'est des érudits fortunés, parce que c'est la qualité des gravures, la qualité de la production faisait que ça avait un certain coût.
Est-ce qu'il a travaillé tout seul? Parce qu'on savait qu'il a travaillé avec des aides, enfin, dans sa création littéraire. Est-ce qu'il a travaillé avec d'autres personnes pour cette galerie de Florence?
Alors, il y a eu un procès, d'ailleurs, avec Maquet, son collaborateur pour Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo et Dumas, dans les années 45, où justement, il déballait tous les collaborateurs qu'il avait eus pour les diverses œuvres. Et il y avait une œuvre pour laquelle il était particulièrement fier, et dans le procès-verbal du tribunal, il raconte comment Alexandre Dumas prend un des fascicules de la galerie de Florence, le tend, le montre au public en disant « Regardez cet ouvrage magnifique, celui-là, je l'ai écrit tout seul. » Et alors, il s'appuyait sur des sources, sur les meilleures sources possibles qui avaient été publiées à l'époque. Et puis, il y a une référence qui est Giorgio Vasari, qui a écrit les vies des peintres, et donc qui est un grand classique. Et donc, Alexandre Dumas s'est appuyé là-dessus et s'est appuyé sur d'autres références que l'on cite dans les préfaces. Il s'est aussi appuyé sur les écrits de Stendhal. Il avait un collaborateur qui était Hector Gariot. Mais Hector Gariot, au bout d'une dizaine d'années, Alexandre Dumas est passé à autre chose. Hector Gariot a voulu continuer la publication. Et donc, il publiait, lui, des commentaires signés de Hector Gariot. Et on voit bien que le style est complètement différent. On ne les a pas mis dans le coffret parce que ça n'avait plus rien à voir avec ce qu'écrivait Dumas. Donc, Hector Gariot n'écrivait pas pour Alexandre Dumas. À la rigueur, il lui fournissait des éléments sur les peintres, etc. Mais c'était vraiment Et puis, il y a une autre chose que Alexandre Dumas faisait, c'est qu'il regardait ce que faisait l'historien de l'art Ranalli quand il écrivait sa version italienne et il pouvait s'en inspirer. Bon, ça, on l'a indiqué. À chaque fois qu'il y a un texte qui est inspiré par ce qu'avait écrit Ranalli, on l'a écrit. Mais souvent, Alexandre Dumas change les tournures d'une manière à rendre le texte remarquable. Il y a vraiment des tournures qui sont propres à Dumas, même quand il a jeté un œil sur ce qu'avait écrit Ranalli. Mais en fait, le plus grand secret dans la galerie de Florence, son collaborateur, son véritable collaborateur pour publier ses 7 volumes, c'est Alexandre Dumas fils. En fait, la galerie de Florence, c'est une œuvre d'un père et de son fils, Alexandre Dumas père et Alexandre Dumas fils. Et c'est même la première œuvre écrite par Alexandre Dumas fils. La première véritable œuvre écrite par Alexandre Dumas fils qui va ensuite le lancer dans la carrière d'écrivain. Et donc, il crée une dynastie, Alexandre Dumas. Il amorce une dynastie d'écrivains avec la Galerie de Florence en mettant son fils à contribution. Alors, bien sûr, il le met à contribution, mais ce n'est pas officiel. Donc, il n'est pas auteur officiel de la Galerie de Florence, mais on a retrouvé des lettres entre le père et le fils attestant du fait que certaines pages sont écrites par Alexandre Dumas fils.
Je voulais juste reprendre le premier volume, c'est peut-être le volume le plus romanesque, finalement, l'histoire des Médicis. Mais j'ai cru comprendre en fait qu'il avait déjà publié peut-être des éléments qu'on trouve dans cette histoire des Médicis dans Une année à Florence. Vous pouvez nous éclairer en fait sur ce travail.
Ça a été un véritable trésor pour Alexandre Dumas, la galerie de Florence, parce qu'il en a récupéré des morceaux tout au long de sa carrière, pour en republier des volumes, pour republier des feuilletons, et même 20 ans après, quand il est parti en Sicile pour créer son journal L'Indipendente, dans le journal L'Indipendente, il sortait en feuilleton, en italien, certaines des biographies qu'il avait publiées dans la galerie de Florence, déjà. Donc, l'histoire des Médicis a été publié en volume à part. On n'y retrouve pas l'intégralité de l'histoire des Médicis. Notamment, on ne trouve pas on n'y retrouve pas la dynastie des Lorrains. Et puis, on n'y retrouve pas l'introduction d'Alexandre Dumas. Mais ça a été publié en volume à part. Alors, est-ce que c'est la plus romanesque? En fait, même les biographies de peintres sont assez romanesques parfois, parce que c'est des peintres qui ont un caractère fort, Benvenuto Cellini, qui est prêt à sortir son poignard à chaque fois qu'on le contrarie, ou la rivalité entre Michel-Ange et Bandinelli, c'est raconté aussi d'une manière très romanesque. Et puis, il côtoie aussi les grands de ce monde. Par exemple, Rubens, dans la biographie de Rubens, Rubens était à la fois diplomate et peintre. Et donc, quand Alexandre Dumas raconte Rubens, il raconte quand Rubens va à la cour du roi Louis XIII et il rencontre le duc de Buckingham, autre diplomate, amoureux d'Anne d'Autriche. Et donc, il raconte l'histoire d'amour entre Buckingham et Anne d'Autriche dans la biographie de Rubens. Et Buckingham qui demande à Rubens de lui peindre le portrait de la reine. D'ailleurs, on trouve au Louvre un portrait de... Alors, maintenant, qui est considéré comme une copie de Rubens, d'Anne d'Autriche, avec dans le fond une petite statuette qui est le buste de Buckingham et un petit Cupidon qui tire une flèche vers Buckingham. Bref, Rubens était au cœur de l'intrigue entre Buckingham et Anne d'Autriche. Et Alexandre Dumas le raconte dans la biographie de Rubens et du coup raconte le cœur de l'intrigue des Trois Mousquetaires avec les ferrets de la reine. Donc on y trouve l'intrigue des Trois Mousquetaires qu'il développera ensuite dans les Trois Mousquetaires et qui a fasciné des millions de lecteurs dans le monde.
Est-ce qu'on trouve d'autres sources d'influence faites parce que finalement, ça a été publié avant les Trois Mousquetaires et le Comte de Monte Cristo. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on retrouve dans la Galerie de Florence qu'on retrouvera dans ces romans?
Oui, dans la biographie de Baldassare Peruzzi. Baldassare Peruzzi, à un moment, il part à la cour papale, donc à Rome, et c'est l'occasion pour Alexandre Dumas pour raconter l'histoire du pape Alexandre VI, qui était en fait Rodrigo Borgia, et de son fils César Borgia. Et ils racontent l'origine du trésor de Monte Cristo, Parce que dans le conte de Monte Cristo, l'origine du trésor, c'est en fait le trésor des cardinaux que les papes voulaient empoisonner pour pouvoir recevoir l'héritage. Donc il faut savoir que le pape, quand il nommait un cardinal, déjà le cardinal payait une fortune pour avoir la nomination en tant que cardinal, mais en plus, quand il mourait, l'héritage revenait au pape. Donc Alexandre Dumas raconte les dîners qu'organisait le pape Alexandre VI pour les cardinaux les plus riches. Et en fait, il versait du vin empoisonné pour pouvoir hériter de leur fortune. Et c'est l'origine du trésor du comte de Monte Cristo qui est raconté plus tard dans le comte de Monte Cristo.
Je vous posais la question, c'est mais quelle place a la peinture dans l'œuvre d'Alexandre Dumas? Parce que pour qui s'intéresse autant à la Grise de Florence, il avait une certaine appétence pour l'art. Quels sont ses rapports avec Dumas et l'art en général?
Un véritable amoureux de la peinture. Récemment, ça a été un peu plus mis. Le public et l'a su plus récemment grâce notamment à la bande dessinée de Catherine Meurice sur Delacroix racontée par Alexandre Dumas. Donc Alexandre Dumas était un grand ami de Delacroix, était un grand ami en général des peintres de l'époque. Il était un véritable amoureux de la peinture et il avait invité les plus grands peintres à décorer son salon lors d'un bal costumé mémorable, et lui-même s'était déguisé en Rubens, donc pour petit clin d'œil, pour dire qu'il était vraiment connaisseur de la peinture et amoureux de la peinture. Et ça se retrouve dans la façon dont il parle des artistes, des peintres, et ça se retrouve aussi dans la façon dont il décrit les tableaux.
J'ai cru comprendre que quand il voyageait aussi avec des peintres ou des dessinateurs, et ça lui servait de source d'inspiration pour l'édition de ses romans, de ce que j'ai pu comprendre.
Il connaissait l'importance de l'image. L'importance de l'image, de raconter des histoires avec des images. Et donc, il voulait que ces histoires soient publiées en feuilleton, mais avec des illustrations, des gravures. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il partait en voyage pour trouver des sources d'inspiration, il partait en même temps avec un dessinateur qui pouvait ensuite faire des peintures, mais qui était destiné à illustrer ses récits. Et puis plus tard, quand la photo a été inventée, il est même parti en Sicile avec un photographe. Et le but était de créer des photographies, mais pour en faire ensuite des gravures, pour illustrer ses récits. Et il connaissait tellement la force de l'image que c'est lui qui a demandé à Garibaldi de se faire prendre en photo par son photographe, le photographe de Dumas, Legret. Et il a créé ainsi une image emblématique qui a été ensuite distribuée dans toute l'Italie et qui était un outil de propagande formidable pour Garibaldi. Et puis même dans ses propres descriptions, très souvent, il fait appel à des peintures. Donc il décrit par exemple les brigands romains en faisant appel aux peintres de l'époque qui peignaient les brigands romains. Il décrit la main d'Athos dans 20 ans après en invoquant le Titien. Et puis, il construisait lui-même. Et puis, c'était aussi... il vient du théâtre, donc il avait aussi une image de ce qu'il voulait raconter. Donc, l'image est vraiment au cœur de ses écrits. C'est un amoureux de la peinture et il connaît la force de l'image. Et ce n'est pas un hasard pour moi que ce soit un des écrivains les plus adaptés au cinéma. C'est parce qu'il y a déjà la force de l'image. C'est le cinéma en puissance, Alexandre Dumas. Et c'est d'ailleurs Le Comte de Monte Cristo qui a été le tout premier film filmé à Hollywood.
J'ai cru comprendre en fait que l'ouvrage a été dédicacé à Nicolas Ier, un empereur russe. Donc c'est un peu étrange d'un livre sur la peinture italienne fait par un Français dédicacé à Nicolas Ier.
Oui. C'est étrange. Alors en fait, il voulait le dédicacer au duc d'Orléans, le fils de Louis-Philippe. Le duc d'Orléans était à l'époque considéré comme une figure républicaine, en fait. C'était, bien qu'il soit le fils de Louis-Philippe, il était considéré comme étant très libéral et un symbole aussi pour les républicains, pour un espoir vers une évolution plus républicaine du régime. Et le duc d'Orléans est mort en 1842 dans une chute de cheval. Donc il n'a pas pu dédicacer au duc d'Orléans la galerie de Florence, mais les commanditaires de la galerie de Florence ont décidé de dédier l'ensemble des versions de la galerie de Florence, celle italienne et celle française, au tsar Nicolas, empereur de toutes les Russies. Mais Alexandre Dumas n'était pas contre, parce que déjà il avait dédié un premier ouvrage au tsar. Il pensait que c'était un empereur qui avait le souci aussi des arts, qui était un mécène pour les arts, qui pouvait soutenir les écrivains, qui pouvait soutenir les artistes, les peintres. Il espérait qu'en France, on ait un gouvernant qui ait la même appétence pour les arts. Donc, il voyait ça en voyant le tsar, bien que politiquement, il se soit opposé aussi à lui. Mais alors, c'est ce qui est très paradoxal chez Alexandre Dumas. Il y a toujours des paradoxes, mais lui-même vient de mondes paradoxaux, puisqu'il est à la fois petit-fils d'esclaves et petit-fils de possesseurs d'esclaves. Il provient à la fois de familles très modestes, mais en même temps de familles nobles. Il était marquis de la pailleterie. Donc il y a tous ces paradoxes chez lui. Il est très républicain, mais en même temps il est très attaché à tous les monarques, aux rois et reines. Il espérait en même temps être en contact avec le tsar, pouvoir faire un voyage en Russie, chose qu'il fera plus tard. Et puis, il y a une petite anecdote aussi sur le caractère d'Alexandre Dumas. Il aimait beaucoup les décorations. Donc, il espérait sans doute aussi une décoration. Il faisait collection des décorations. Il espérait sans doute une petite décoration ou une grosse décoration de la part du tsar. J'ai retrouvé une lettre qu'il avait écrite au pape, en lui demandant une décoration de l'ordre des chevaliers du Christ, et il demandait pas celle qui s'accroche, celle qui se met autour du cou. Et alors, il n'a jamais reçu cette décoration, mais dans le comte de Monte Cristo, eh ben, puisqu'il n'a pas reçu, eh ben, il donne la décoration au comte de Monte Cristo, et c'est le comte de Monte Cristo lui-même qui se l'octroie en se déguisant en prêtre.
Vous avez parlé qu'il existait une dizaine d'originaux de la galerie de Florence, sur lesquels vous vous êtes appuyé pour cette publication.
Alors, il y en a deux principaux, et qui se complètent, parce qu'en fait, c'est rare d'avoir des exemplaires totalement complets. Donc, il y a la version qui est à la Galerie des Offices, et puis en France, il y a une version qui est conservé à l'Académie française, à la bibliothèque de l'Académie française. Donc, on a eu la chance d'avoir le haut patronage à la fois de la Galerie des Offices et de l'Institut de France, l'Académie française, pour pouvoir avoir accès à ces volumes. Et en particulier, pour les gravures, on a pu les reproduire de la manière la plus fidèle possible, en s'appuyant sur les volumes qui sont à l'Académie française.
D'accord. Et combien de temps ça vous a pris pour ce travail, pour réunir tous ces volumes, compiler les textes, voilà.
Alors il y a plusieurs tâches qui prenaient du temps. En tout, on a mis à peu près 2 ans. Donc il y a un travail à la fois scientifique, un travail de recherche. Il faut aller rechercher aussi des tableaux qui aujourd'hui étaient complètement méconnus et dont on n'avait plus que la gravure, sachant que, comme j'ai expliqué, les attributions changent. Donc la plupart, souvent, on avait des attributions qui n'étaient plus les bonnes et des gravures pour lesquelles il fallait retrouver le tableau qui était parfois méconnu aujourd'hui. Et puis il y a tout un travail d'édition sur le texte aussi, parce que il était publié à l'époque donc sous forme de feuilleton, une dizaine de pages chaque mois, mais il était en Italie, chez un imprimeur italien, donc qui ne connaissait pas très bien peut-être le français, ce qui fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de coquilles dans le texte. La ponctuation était aléatoire, et le texte lui-même n'était pas édité, c'est-à-dire quand on mettait toutes les pages bout à bout, ça faisait un fleuve de textes, de mots, mais il n'y avait pas de chapitrage, par exemple. Donc, on a fait vraiment un travail d'édition sur le texte pour que quelque chose qui paraissait en feuilleton puisse être lu sous forme de volume et que ça soit agréable à lire. Et puis ensuite, il y a aussi tout un travail pour pouvoir établir les partenariats nécessaires avec la Galerie des Offices, par exemple, pour avoir accès à ces tableaux. Il faut savoir qu'il y a des tableaux, donc on a voulu mettre les reproductions couleurs des tableaux à côté des gravures, et il y a des tableaux qui n'ont jamais été pris en photo auparavant. Donc il y a des tableaux pour lesquels on a une photo couleur pour la première fois grâce à la Galerie de Florence et grâce au partenariat avec le Musée des Offices. Il a fallu aussi faire le partenariat avec l'Institut de France pour avoir accès au volume qui est en France. Et parfois, les tableaux n'étaient plus au Musée des Offices. Ils ont été éparpillés un peu partout. Il y en a qui sont perdus. Donc on sait qu'ils sont perdus, on a retrouvé dans les inventaires qu'ils ont par exemple été prêtés au ministère des Affaires étrangères en Italie en 1940, et après il a disparu. Ou bien il y a des œuvres qui ont été brûlées dans des incendies suite au bombardement pendant la guerre, ou qui ont été volées. Donc on n'a que des photos noires et blancs, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore de photos couleurs. Et puis il y a des tableaux qui étaient dans des préfectures où il fallait aller dans le bureau de la directrice pour retrouver le tableau qui avait été mis là et le prendre en photo pour la première fois. Donc notamment, c'est un Saint-Paul à la préfecture de Massa Carrara de Véronèse, qui aujourd'hui n'est plus attribué à Véronèse, mais qu'on a été retrouvé là-bas. Et donc j'ai moi-même guidé le photographe du Musée des Offices jusqu'à cet endroit depuis Paris. Je vais payer un Uber pour qu'il puisse aller retrouver la petite fourgonnette dans laquelle mettre ses appareils. Donc, je voyais le trajet en voiture sur mon écran jusqu'à ce qu'il puisse aller prendre les photos des œuvres. Bref, il y avait toute une logistique aussi à mettre en place.
Alors, c'est un beau coffret. Vous pensez que ça va attirer que les amateurs d'art ou les amateurs d'Alexandre Dumas, les deux ?
Les amateurs d'art, les amateurs d'Alexandre Dumas, les amateurs de littérature, les amateurs d'histoire. Puis c'est une année Dumas aussi. Le Comte de Monte Cristo a fait plus de 9 millions d'entrées, à raison, parce qu'Alexandre Dumas, il a raconté des histoires qui sont notre patrimoine commun. Et donc là, on a fait revivre un patrimoine français, un patrimoine italien, un patrimoine culturel franco-italien, même un patrimoine culturel européen. Et c'est des histoires qui ont été écrites pour être partagées par le plus grand nombre et pour plaire au plus grand nombre et pour avoir une histoire commune à partager les uns avec les autres. Donc je pense que ça peut plaire au plus grand nombre. Et le but aussi, c'est de donner accès au plus grand nombre à l'histoire de l'art, pour connaître tous ces merveilleux chefs-d'œuvre, pas mieux que la plume d'Alexandre Dumas.
Il y avait peut-être une dimension politique aussi dans cet ouvrage-là, en fait, constitué par l'idée de créer une nation italienne. Est-ce qu'il y a cette idée-là pour Alexandre Dumas de créer une histoire nationale, enfin, à travers ce...
Oui, c'est ce que dit le directeur actuel du Musée des Offices dans la préface, Simone Verde. Pour lui, il y voit vraiment un acte politique aussi pour créer un roman national. Donc, c'est 1840, c'est une époque qui a vécu plein de bouleversements. Il y a eu la Révolution française, ensuite il y a eu la Restauration, ensuite il y a des révolutions qui se préparent partout en Europe, et il y a le besoin de raconter le roman national. Et donc, Simone Verde, lui, il voit aussi une façon de raconter le roman national italien, et notamment dans la façon de raconter les choses, le fait de montrer que l'histoire a été portée aussi par des individus. Chaque peintre ici est identifié avec son propre caractère. On voit vraiment l'importance de l'individu dans l'avancée de l'histoire.
Juste une question, est-ce qu'il va paraître aussi en italien, parce que ça va autant intéresser les Italiens que les Français ?
Oui, alors, mais comme il y a 1700 pages, il faut d'abord les traduire. Donc ça peut prendre un peu de temps avant qu'il soit traduit en italien, que la traduction soit terminée en italien. Mais il est certain que les Italiens se passionneraient eux aussi pour cette histoire.
Merci.
Merci à vous.